vous suit.
Voici les titres du journal.
Un nouveau centre provisoire d'accueil pour 120 migrants pourrait voir le jour à B en mars prochain. Le projet actuellement mis à l'enquête fait grincer des dents la municipalité. Selon une étude représentative réalisée dans le cadre du nouvel observatoire vieillesse de Procénectute et Suisse, près de 300 000 seniors vivent au seuil de pauvreté dans notre pays. Vaud et Valais ne sont pas épargnés par cette problématique. En automobilisme, Sébastien Bumy a le regard braqué sur la saison 2023 de Formule E. Alors qu'il vient de changer d'équipe, le Chablaisien espère à nouveau pouvoir jouer les premiers rôles et se mêler à la lutte pour le titre.
De plus en plus de nuages vont arriver cet après-midi avant la pluie qui est annoncée pour cette fin de journée. Demain, le temps sera très nuageux avec de la pluie. On en parle de cette météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journaux. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le projet de centre provisoire d'accueil pour 120 migrants de l'EVAM fait grincer des dents la municipalité de B. L'objectif de cette construction provisoire est de faire face à l'extraordinaire afflux de personnes fuyant l'Ukraine. L'établissement vaudois d'accueil des migrants explique aussi que cela va également permettre une rénovation du foyer existant. Mais il y a un problème. Lors d'une séance avec la municipalité de B cet été, la direction de l'EVAM aurait indiqué un centre de 80 personnes et non 120 selon les dires de la municipalité. Écoutez Alberto Chirubini, syndic de B.
Alors du côté de la municipalité, c'est une nouvelle que nous accueillons de manière mitigée, dans le sens que nous avons reçu en séance de municipalité la direction de l'EVAM cet été, qui nous avait parlé d'un centre provisoire pouvant accueillir 80 personnes et pas 120, comme cela a été mis à l'enquête dernièrement. Donc, ce qui veut dire que l'on doit procéder à une dérogation pour accueillir aussi grande surface sur cette parcelle qui appartient au canton. Ça nous divise avec la direction de l'EVAM, qui n'a pas été de parole sur ce sujet.
Mais le mot important, c'est que ça reste quand même un centre d'hébergement provisoire, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment supplémentaire.
Voilà, mais comme le provisoire a tendance à durer dans nos contrées, on veut quand même discuter avec l'EVAM pour savoir quels sont vraiment leurs objectifs, et puis quand même pour les rendre attentifs aussi à une meilleure répartition des requérants sur le territoire vaudois.
L'établissement vaudois d'accueil des migrants nous a indiqué que la construction de ce centre provisoire était nécessaire puisque le foyer actuel était actuellement occupé à 92% de la capacité théorique maximale.
C'est un constat aussi inquiétant que triste.
Et c'est celui effectué par le nouvel observatoire vieillesse de Procénectute Suisse et rendu public début octobre. Dans notre pays, bien que de nombreux retraités disposent d'une bonne situation financière, près de 300 000 personnes sont menacées de pauvreté à l'âge de la retraite. Parmi elles, 46 000 se retrouvent même dans une situation de pauvreté sans issue. Un phénomène qui touche 13,4% des 65 ans et plus dans le canton de Vaud, 8,8% en Valais. Président du conseil de fondation de Procénectute et Valais, Julien Dubuis trouve cela inacceptable au vu de la situation du pays.
Oui, je dirais que c'est très rageant puisque c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont construit notre pays. Et aujourd'hui, je pense que le pays, les cantons doivent se mobiliser pour que ce pourcentage de gens qui sont sous le seuil de pauvreté puisse sortir la tête de l'eau et trouver des moyens financiers pour vivre correctement après tout ce qu'ils ont apporté à notre société.
À titre d'exemple, 13,6% des personnes de plus de 65 ans ne peuvent pas se permettre une dépense imprévue de 2000 francs, consternant pour Julien Dubuis encore.
Alors effectivement, c'est dramatique, mais si on prend des gens qui ont simplement le revenu AVS et qui n'ont pas forcément de fortune et pas de bien immobilier pour pouvoir vendre, pour avoir un peu de liquidité, ou un tout petit montant qui leur est versé par la LPP, c'est clair que le quotidien est compliqué pour ces gens-là, et c'est clair que ces dépenses imprévues sont juste impossibles. Et à notre sens, c'est intolérable de voir qu'aujourd'hui, en 2022, on n'arrive pas à trouver une solution pour que ces gens puissent au moins vivre décemment avec un revenu qui leur permette d'assumer tous les quotidiens de la vie, j'aurais envie de dire.
Julien Dubuis ajoute en outre que Procénectute suit de près l'évolution de la situation et continue à s'engager résolument par le biais de la consultation, de l'aide financière ou encore de la voie politique pour améliorer les choses et ainsi appuyer les seniors en fâcheuse posture financière. C'était un sujet signé Yves Terrani. Les conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin ont lancé en grande pompe ce matin à Berne l'Alliance pour les économies d'énergie. 180 partenaires issus de l'économie, des pouvoirs publics et de la société civile ont rallié cette alliance. Ils se sont ainsi engagés à mettre en place les bonnes pratiques pour réduire le gaspillage énergétique avec un double objectif vertueux, contribuer à limiter le risque de pénurie durant l'hiver et réduire sa facture de gaz ou d'électricité. Le Conseil fédéral se démène pour produire plus d'énergie en hiver. N'aurait-il pas dû commencer par prôner les économies ? Écoutez la réponse du ministre Guy Parmelin.
Non, je crois pas, mais ça montre au public que les milieux économiques, les milieux publics aussi, prennent des mesures, réfléchissent à diminuer leurs coûts, refont finalement l'inventaire dans leur entreprise de tout ce qui est possible pour éviter de payer une facture trop élevée et de contribuer ainsi au fait que peut-être nous arriverons à repousser le plus loin possible des mesures beaucoup plus dures. Et je pense que c'est un exemple que chacun peut transposer dans son environnement personnel. Qu'est-ce que je peux chez moi aussi faire pour économiser de l'énergie ? Je pense que de nombreuses personnes jusqu'ici ne regardaient pas trop leur facture d'électricité. C'est le bon moment d'y réfléchir.
Et le Conseil fédéral a renoncé à fixer un objectif chiffré d'économie d'énergie. Il s'appuie sur l'exemple japonais après la catastrophe de Fukushima avec une fourchette de 8 et 18% d'efficience. Parmi les partenaires de l'Alliance de l'économie, les hôpitaux universitaires Genevois. Pour le directeur des HUG Bertrand Levrat, économiser l'électricité peut se faire sans péjorer la situation des patients.
Bien entendu, la priorité va aux patients et là-dessus, il est difficile de faire des économies. En revanche, un hôpital, c'est 13 000 employés en ce qui concerne les hôpitaux genevois, avec également la cuisine, la blanchisserie, l'administration. Et là, oui, bien sûr, il faut faire des économies d'énergie et participer à l'effort global. Près de 30% de notre consommation électrique, ce sont les lumières de plafond. Et là, nous avons remplacé par des LED, nous avons mis des minuteurs. Et puis, une anecdote peut-être, mais nous avons pris 3 employés qui, de 19h à 21h, font la tournée de l'ensemble des bureaux et puis laissent une petite carte, un petit mot pour dire « Bonjour, j'ai éteint dans votre bureau ou j'ai éteint l'ordinateur et puis demain matin, pensez avant de partir à éteindre également la lumière. » C'est une incitation forte à changer les comportements et être responsable aujourd'hui par rapport à notre consommation d'énergie.
Un dossier préparé à Berne par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. La loi fédérale sur les stupéfiants a été modifiée en août dernier et l'usage du cannabis à des fins médicales n'est désormais plus interdit. La société argovienne Pure Pharma se prépare par conséquent au lancement début 2023 de médicaments à base de cannabis selon un communiqué publié aujourd'hui. Les rentes survivants et invalidité du deuxième pilier seront adaptées à l'évolution des prix dès le 1er janvier. Le taux se situe entre 2,8 et 4,2% selon la première année de perception de la rente, indique aujourd'hui l'Office fédéral des assurances sociales. Ces rentes doivent être adaptées périodiquement jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite et certaines rentes seront adaptées pour la première fois.
Swiss Transplant met fin à son registre des dons d'organes.
La consultation de ce dernier par les hôpitaux ne sera donc plus possible. La fondation informera dès que possible les donneurs inscrits dans le registre des possibilités de consigner leur volonté de faire un don. Elle recommande, tant pour la solution encore en vigueur du consentement explicite au don d'organes que pour la solution à venir du consentement présumé, de consigner par écrit le souhait de don et de le communiquer à ses proches.
À l'étranger, le Parlement britannique a vécu une soirée mouvementée hier.
Après une nouvelle démission surprise, la première ministre Liz Truss est déjà sur la sellette après 6 semaines au pouvoir, ne tient plus qu'à un fil à Downing Street. Pour le tabloïd The Sun, Liz Truss est brisée. Son autorité est en lambeaux après une journée extrêmement chaotique, écrit le quotidien, ajoutant que le gouvernement est en train de s'écrouler devant nous. Affaibli au sein de sa majorité conservatrice, plus impopulaire que jamais dans l'opinion, Liz Truss a beau assurer qu'elle veut rester au pouvoir, sa situation semble de plus en plus intenable après l'abandon en rase campagne de son programme économique et le départ de 2 de ses principaux ministres. La Russie a affirmé clairement qu'elle ne perdra jamais la guerre en Ukraine, selon les dires de son ambassadeur à l'ONU. Battre la Russie sur le champ de bataille ne pourra jamais être atteint, a-t-il dit aujourd'hui auprès des correspondants accrédités à l'ONU à Genève. Selon lui, les États-Unis n'ont retenu aucun enseignement de la crise des missiles à Cuba il y a 60 ans. Il a accusé Washington de pousser l'Ukraine à poursuivre la guerre contre son pays. On passe au sport, en tennis. Le rêve de Belinda Bencic de disputer le Masters s'est évanoui dans la nuit de Guadalajara. Battue au deuxième tour du tournoi mexicain, elle ne sera pas de la partie lors de l'épreuve américaine. La championne olympique s'est inclinée 6-4, 6-4 devant Sloane Stephens qui accueillit sa première victoire de l'année contre une joueuse du top 20. De son côté, la Suissesse a concédé hier soir sa 18e défaite de l'année en 56 rencontres.
En Formule 1, l'heure est au grand chamboulement pour Sébastien Huemi.
En 2023, le pilote d'Aigle sera au volant d'une toute nouvelle voiture. Après 8 ans passés au sein de l'écurie Nissan e-Dams, le Chablaisien s'est engagé avec l'équipe privée Envision Racing. Il a signé un contrat qui porte sur plusieurs années avec la team britannique. Après 2 dernières saisons compliquées, le Vaudois espère ainsi pouvoir se relancer. Le champion du monde 2016 de la catégorie réservée aux monoplaces 100% électriques n'a plus goûté aux joies de la victoire depuis plus de 3 ans. Avec ce changement d'employeur, son but est donc de lutter à nouveau avec les meilleurs. Les explications de Sébastien Buemi.
C'est sûr que sur le papier, ça semble pas terrible, les résultats des dernières saisons. Après, il faut la comparer à nos coéquipiers. C'est que l'année passée, j'ai fait un bon travail, je dirais, en comparaison avec mon coéquipier, qui est le seul à avoir la même voiture que moi. Donc voilà, cette année, maintenant, c'est nouveau. Ça serait une nouvelle voiture pour tout le monde. C'est très difficile de prédire si on sera compétitif ou pas. Mais en tous les cas, sur le papier, c'est bien. Il y a la motivation, l'équipe a les moyens de ses ambitions. Donc on va essayer de tout faire bien et on aura la réponse d'ici quelques mois.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. À noter que la 9e saison de l'histoire de la Formule E commencera le samedi 14 janvier dans les rues de Mexico.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.